Attention, ceci est une mise en abîme, encore plus fort que la boîte de vache qui rit sur laquelle figure une vache dont les boucles d'oreilles sont des boîtes de vache qui rit. Je vous propose un débat sur les débats aujourd'hui. Plus un jour ne passe sans qu'on voit à la télé notamment discuter des gens qui ne sont pas d'accord. On est en droit de se demander si trop de débats tuent le débat, mais surtout quelle place pour les idées. Cette année a été marquée par le grand débat national organisé par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des gilets jaunes. Était-ce un grand débat ou un grand oral ? S'interroger sur la place des idées dans notre société, c'est aussi bien sûr évoquer celle des intellectuels. Le Festival des idées, qui démarre demain à la Charité-sur-Loire, nous en offre l'occasion. J'attends vos réactions, chers auditeurs. Estimez-vous qu'une altercation à la télé est ratée si personne ne quitte furax le plateau ? Quelle est la frontière entre une engueulade et un débat ? La passion de l'engueulade, d'ailleurs, est-elle typiquement française ? Vous nous écrivez sur l'application France Inter, sur la page du débat de midi, franceinter.fr, ou encore sur Twitter, hashtag le débat de midi. Les débats ont-ils encore des idées ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Je vous présente tout de suite mes trois invités. Christian Paul, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes ancien ministre du gouvernement Jospin, ancien député socialiste de la Nièvre. Avez-vous toujours votre carte OPS d'ailleurs ?
J'ai pris quelques distances, mais comme je ne suis pas adepte du nomadisme politique, je n'ai pas quitté le Parti Socialiste.
Donc vous êtes toujours membre du parti ? Co-fondateur en tout cas, et c'est pour ça que je vous ai invité aujourd'hui du Festival des idées qui démarre...
Oui, pas du Parti Socialiste, ça c'était...
non,
c'était
pas vous.
C'était plutôt François Mitterrand.
Ça démarre demain à la Charité-sur-Loire, c'est chez vous donc. Première édition de ce festival, est-ce que le constat de départ c'était que les idées sont boudées aujourd'hui en France ?
Ça n'était pas la raison majeure, parce que on va faire la démonstration d'une extraordinaire vitalité des idées pendant 3 jours. Donc la France n'est pas un désert pour les idées, il y a des chercheurs, il y a des controverses, il y a des expérimentations, et en revanche, il faut réveiller les consciences. Ça va être plutôt ça le but, et sans doute faire tomber les murs entre la politique et les citoyens, entre les chercheurs et les politiques, entre les partis politiques qui sont dans la compétition alors qu'il ferait mieux de se rassembler. Mmh. Voilà, c'est plutôt ça le sens de ce festival.
3 jours de débat avec notamment un débat dont l'intitulé m'interpelle, Internet est-il de droite ? Voilà, on verra ça, ça se passe pendant 3 jours à la Charité-sur-Loire. Deuxième invité autour de cette table, Charles Consigny, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous étiez toute la saison sur le plateau de Laurent Ruquier, chroniqueur sniper, comme on dit, de l'émission On n'est pas couché sur France 2, aux côtés de Christine Angot. Vous n'y serez plus à la rentrée, il n'y aura plus de polémiste du tout d'ailleurs, je crois. Est-ce que vous le regrettez ? C'est dommage, selon vous ?
Oh non, je pense que, vous savez, moi je suis fils de publicitaire, je connais un peu la vie des marques et je pense que les marques doivent se renouveler pour survivre au temps et que...
Ça passait par le sacrifice des chroniqueurs.
Ça faisait 13 ans, cette émission ça faisait 13 ans qu'il y avait 2 chroniqueurs plus un présentateur, animateur. Et voilà, au bout de 13 ans, c'est bien de changer un peu. Les grandes marques changent régulièrement de logo, d'identité, de directeur artistique. Ça fait partie de la vie d'une marque.
Vous avez en tout cas aujourd'hui la liberté de parole nécessaire pour tirer le bilan de cette saison. On le fera tout à l'heure. Et ma troisième invitée est universitaire, maîtresse de conférences en littérature à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour Sarah El-Matari.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'histoire des polémiques entre intellectuels en France, également rédactrice en chef de la vie des idées, et vous avez publié au Seuil un livre sur l'anti-intellectualisme qui s'intitule « La haine des clercs ». On pense souvent que la France, c'est la patrie des intellectuels, un pays qui aime les idées, et vous prouvez au contraire dans votre livre que la haine des intellos est féroce. Elle est féroce et elle n'est pas du tout récente, Sarah El-Matari.
Non, c'est une haine qui remonte au moins à la révolution industrielle et au moment en fait où le partage entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels se fait. Le livre commence autour de cette période-là et de 1830 et fait la part belle à certains polémistes dont Pierre-Joseph Proudhon qui est un des principaux théoriciens de l'anti-intellectualisme en France.
Est-ce que c'est pire aujourd'hui qu'hier pour vous le demander simplement ?
C'est compliqué de répondre à cette question. On parlera sans doute tout à l'heure beaucoup de la violence. Mmh. Il me semble que quand on est historien et quand on promène son regard dans les textes du passé, on est saisi par la grande violence verbale qui s'y manifeste, mais aussi par la violence physique des épisodes qui y sont relatés. On pourra peut-être donner quelques exemples plus tard.
Le clash, c'était pas mieux avant, donc c'est ce que vous dites déjà. On entre dans le vif du sujet dans un instant. Émission préparée par Cyril Marchand, réalisée par Lola Costantini. Rémi Sistiaga et Ludovic Asselot sont à la technique. Vous êtes bien sur France Inter.
Au matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on trouve un Beaujolais vrai de vrai, un nectar de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des vins. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là, on a trépassé le soir même et voilà. On se retrouve au paradis vers minuit, devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir déménagement.
Et voilà, nous avons choisi Boris Vian comme parrain pour cette émission consacrée à la place des idées dans le débat public. Programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Et pendant la pause musicale, Charles Consigny se désolait de ne pas être invité au Festival des idées
il a été
de
en
Christian
direct.
Paul. Voilà, Internet est-il de droite? Ça, c'est un sujet pour vous, Charles Consigny. Vous
mais
irez
oui, mais
vous irez à la Charité-sur-Loire ce week-end?
Internet est de droite parce que les médias sont de gauche.
Ah, voilà, ça c'est de la punchline.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Écoutez, Kabash, c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous.
J'ai jamais mis mes idées dans ma poche.
Ni dans sa tête.
Ta gueule.
Je m'en fous de vos
Pourquoi
questions. En fait, ça me fait chier de parler avec quelqu'un aussi con que vous. Je suis désolée.
Ta gueule.
Je ne discute pas
non.
avec quelqu'un qui insulte les autres comme vous venez de le faire à mon égard.
Ta gueule.
Si ça se passe mal, il y aura les gants pour l'un ou l'autre.
Coupez-leur
le micro.
Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire là?
Ta gueule.
Ouais, et je peux le redire encore.
Vous aurez sans doute reconnu dans le désordre Francis Lalanne, Georges Marchais, Caroline Fourest, Alain Finkielkraut ou encore Collard et Econ Bendit. Qui oserait prétendre que ce n'est pas délicieux de voir à la télé des gens s'écharper? Charles Consigny, vous qui avez passé la saison sur le plateau d'On n'est pas couché, est-ce que vous diriez que les clashs déclenchent chez ceux qui les regardent un plaisir coupable?
Oh, est-ce que oui, sans doute, il y a un côté spectacle de gladiateur. Après, Est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça maintenant, aujourd'hui?
Alors justement, on parle beaucoup de l'ère du clash. Est-ce que vous diriez qu'on en est sorti aujourd'hui? Et peut-être que l'affaiblissement de cette émission, qui marche de moins en moins bien, On n'est pas couché, est le signe de ça, de la fin d'une époque?
Non, je pense d'abord, elle marche pas tellement de moins en moins bien. C'est juste que l'audience se répartit différemment. C'est une émission qui est très jalousée. Donc
c'est l'ancien ministre qui parle.
Donc tout le monde l'attaque parce qu'en fait les gens sont jaloux. Elle fait encore des parts d'audience très élevées. Je crois que on est entré dans une ère de fatigue par rapport au débat, que les gens en ont en fait un peu marre de toutes ces polémiques, comme on dit, qu'elles ont été sans doute un peu surexploitées par des médias qui en faisaient leur matière, leur nourriture. On est une société un peu dépressive qui maintenant ne veut plus être contrariée. Et donc on ne veut plus entendre parler des sujets qui fâchent, alors que il y a pas si longtemps on se ravissait d'entendre toute une génération, toute une série d'éditorialistes nouveaux comme Éric Zemmour, etc., qui venaient mettre sur la table les sujets qui fâchent, mais maintenant on les trouve inconvenants. On est un peu comme dans un repas de famille où tout à coup quelqu'un se mettrait à parler de ce dont on n'a pas envie de parler.
Je suis étonné que vous n'ayez pas encore prononcé l'expression politiquement correcte.
Et donc on lui demande de se taire. Non, mais c'est même plus ça. Je crois qu'on traverse une phase où on a envie d'un certain calme. Je pense que, si vous voulez, je pense qu'il y a un consentement de la population au politiquement correct en ce moment.
Alors, je me tourne vers la spécialiste de l'histoire des polémiques, Sarah Almatari. Est-ce qu'on est fatigué des débats en France?
Je crois pas. Je crois qu'on n'arrête pas de débattre et qu'il y a différentes manières d'exprimer justement l'insatisfaction. On débat sur les ronds-points. On a beaucoup débattu sur les ronds-points aussi cette année. On a marché. C'était aussi une manière d'exprimer, non pas, comme le dit Charles Consigny, une volonté de calme. Au contraire, il me semble, de rappeler qu'il y a de la conflictualité dans la vie sociale et que, voilà, cette conflictualité, elle se fait entendre.
Est-ce qu'on a une idée de comment c'est perçu par le public, ce genre d'altercation télévisuelle très spectaculaire, très drôle, il faut le dire, qu'on voit à la télévision?
Il faudrait voir s'il existe des études de réception précises, des enquêtes sociologiques sur ce phénomène. Je ne peux pas me prononcer là précisément, mais ce que je peux dire, c'est qu'elles ont au moins un mérite, c'est de dramatiser les positions, c'est-à-dire de souligner en fait les opinions des uns et des autres. Ça s'exprime souvent sur un temps assez court, et quand seule la forme importe au détriment du contenu, ça peut paraître un peu dommage.
Christian Paul, ancien ministre, je le rappelle, ancien député, vous avez côtoyé les plateaux télé en tant qu'invité à débattre. C'est une question de format avant tout, le problème que pose le débat à la télévision?
Je pense qu'il y a des chaînes d'information qui ont tenté de se spécialiser dans le clash sur leur plateau. On l'a vu encore d'une façon d'ailleurs tout à fait odieuse avec Pascal Pro sur CNews il y a quelques semaines. Mais ce qui est très probable, c'est qu'il y a une sorte d'obsolescence du produit de ces débats qui...
On est en train de changer d'époque.
Dans l'Hexagone, peut-être, il y a une sorte de, en effet, de lassitude à l'égard de débats dont on ne retient rien. Parce qu'on retient le clash, le moment, éventuellement les visages, mais trois semaines après, personne ne se souvient réellement, dans beaucoup de cas, de la raison même du clash.
Alors, pour prendre l'exemple que vous venez de citer de Pascal Praud, qui reçoit Claire Nouvian en militante écologiste, tout le monde se souvient très bien que le sujet, c'était le réchauffement climatique.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait?
2 millions de vues sur les réseaux sociaux,
oui, alors,
cette vidéo.
Effectivement, on peut simplifier à l'excès, effectivement, il y a une combattante pour le climat et un climato-sceptique, voilà, on retient à peu près ça. Mais en revanche, ce qui n'a pas changé et qui est peut-être quand même l'élément majeur qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère du clash, c'est quand même le clash planétaire. Et c'est l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis qui inaugure en quelque sorte l'heure du clash en grand. Ça n'a pas commencé avec lui. D'ailleurs, les clashs n'ont pas commencé, vous avez raison, avec les réseaux sociaux ou même avec la télévision. Les années 20 sont des moments de confrontation épique. À l'Assemblée nationale, dans les années 50, il y a des batailles d'une violence inouïe, notamment entre les députés communistes et les autres. Donc la France a une histoire du clash. Aujourd'hui, le clash, il est planétaire. C'est ça qui a changé sans doute la donne et qui rend d'ailleurs sans doute aujourd'hui le débat public difficile. Parce que si on veut échapper au clash, il faut la rationalité des arguments, il faut la qualité de la délibération collective et ça, il faut le réhabiliter en permanence. C'est ce qu'on va essayer de faire au Festival des Idées.
Est-ce qu'on peut imaginer un débat à la télévision qui serait spectaculaire, dans lequel le débat serait fécond sans être chiant, si vous me permettez cette expression triviale, Charles Consigny.
C'était tout à fait le cas. D'abord, je crois que c'était le cas. On n'est pas couché de temps en temps. Ensuite, c'était le cas dans d'autres émissions comme Ce Soir ou Jamais, que moi j'aimais beaucoup sur France 3. Donc c'est tout à fait possible. Je voudrais juste, c'est intéressant ce que dit Christian Paul sur Donald Trump, parce que je pense que Trump a été élu justement après une phase de politiquement correct furieux aux États-Unis, et qu'en fait il y a eu une saturation d'un grand nombre d'électeurs qui en avaient marre qu'on leur matraque la tête avec du politiquement correct. Je pense que la période Obama a été un moment incroyable de bien-pensance, et les Américains.
Mais qu'est-ce que c'est la bien-pensance? Est-ce que c'est le contraire de la mal-pensance? Je sais, c'est votre spécialité, est-ce que il faut mal penser? Est-ce qu'il faut abandonner ses valeurs au bestia quand on rentre dans un débat télévisé?
Non,
qu'est-ce que c'est
tout.
La bien-pensance? Ben,
je vais vous répondre. Le mandat d'Obama, ça a été ce qu'on vit à retardement en France avec le macronisme, Emmanuel Macron, c'est-à-dire soit vous êtes avec lui et vous êtes progressiste, gentil, ouvert aux autres, etc. Soit vous n'êtes pas avec lui et vous êtes d'extrême droite.
Mais qui dit ça?
Bah, tout le monde, je suis désolé. Aujourd'hui, par exemple, les macronistes, même sur la question de la privatisation d'Aéroports de Paris, ils vous expliquent que si vous êtes contre, c'est parce que vous agitez la menace que les frontières sont privatisées, et que donc, en fait, vous êtes d'extrême droite. Donc, ils justifient une opération qui consiste quand même à enrichir des groupes privés au détriment des Français dans leur ensemble, la privatisation d'Aéroports de Paris. Ils le justifient par leur argument massu et systématique qui est soit c'est nous, soit c'est l'extrême droite.
Vous avez raison, mais c'est peut-être un autre sujet. Effectivement, il y a un enfermement du débat national. On va pas clasher sur ce point-là. Hein. Il y a un enfermement du débat national aujourd'hui.
Une polarisation,
une polarisation artificielle, totalement artificielle.
Une bipolarisation artificielle,
qui est d'ailleurs démentie par les élections européennes. Hein. D'un côté, Emmanuel Macron, qui veut être le dernier rempart face au nationalisme et à la xénophobie, et puis de l'autre côté, effectivement, le parti identitaire qui, d'ailleurs, va, hélas, aujourd'hui, un peu au-delà des frontières du Rassemblement national. Et c'est effectivement, il faut dénoncer, vous avez raison sur ce point.
Parce que les gens vont en avoir marre, comme aux États-Unis, ils en ont eu marre d'Obama.
Mais le débat français ne doit pas se résumer à ça.
Après Macron, les gens, ils en auront assez que ce soit les gentils contre les méchants, ils voteront pour les méchants. Si cette bipolarisation continue.
Sarah El-Matari, j'imagine que cette récurrence de l'expression politiquement correcte et bien-pensance doit vous intéresser en tant que spécialiste des polémiques.
J'ai travaillé beaucoup sur Bernanos, l'auteur de La Grande Peur des bien-pensants, donc c'est évidemment une expression qui m'interpelle, que je n'utilise pas particulièrement, parce que pour moi, ces expressions terrorisme intellectuel, pensée unique, bien-pensance, sont juste une manière...
Intelligentsia ?
Oui, puis c'est une manière de disqualifier l'adversaire. En le rendant sa parole complètement inaudible, tout simplement. Ce que je voulais dire, en réaction peut-être à ce que disait tout à l'heure Christian Paul, sur l'aspect historique, c'est que aujourd'hui on est essentiellement dans un journalisme d'information avec quelques clashs, mais qui se limite souvent à des traits qui sont ponctuels, alors qu'au 19e siècle, on était largement dans un modèle qui était celui du journalisme d'opinion, où là, les clashs s'exprimaient, mais de manière beaucoup plus diluée sur le long terme. Et pour moi, ça change vraiment tout. C'est-à-dire que ce sont plus des flashs polémique, mais au contraire une pensée qui se développe sur le long terme, dans des pamphlets, dans des libelles, etc. On pourrait citer Louis Ferdinand Céline, par exemple.
Vous écrivez dans votre livre, Sarah El-Matari, que ce serait une erreur de résumer l'anti-intellectualisme en France au soupçon que l'élite inspire aux masses, hein, pour le dire rapidement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas uniquement une opposition entre la masse et l'élite.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors évidemment, il y a un anti-intellectualisme d'essence populaire. Ça existe et je ne le nie pas. Moi, j'ai travaillé essentiellement sur des sources imprimées. Et donc, c'est une sorte de biais qui fait que je me suis beaucoup intéressée à l'anti-intellectualisme des intellectuels, qui va parfois jusqu'à une forme de haine de soi. Ce qui m'a vraiment frappée, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est que l'anti-intellectualisme a pu porter aussi des projets constructifs, entre guillemets, des projets d'émancipation et des projets égalitaires. Et c'est pas forcément ce à quoi on pense spontanément.
Sans doute faut-il résumer définir, pardon, l'intellectuel, parce que vous parlez d'arroseur arrosé dans votre livre, et notamment en évoquant Onfray et Welbeck, qui sont des arroseurs arrosés de l'anti-intellectualisme. Beaucoup de monde aurait tendance à ranger Onfray et Welbeck dans la case intello en France.
Oui, alors c'est une construction médiatique, à mon avis. La question que vous posez est difficile, parce que en fonction des périodes, le mot intellectuel ne recouvre pas exactement les mêmes catégories. Cela dit, l'exemple de Welbeck et celui d'Onfray me semblaient, alors ils sont très différents tous les deux, hein, mais ça me semblait deux exemples intéressants d'individus en fait portés par les médias, considérés par les médias comme des intellectuels, mais profondément anti-intellectualistes, dans la mesure où ils ont formulé des attaques contre un certain nombre d'enseignants, de chercheurs et de gens qui avaient une œuvre.
Charles Consigny défendait donc Michel Welbeck.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, ça me semble absurde de dire que c'est une créature des médias, Michel. C'est une créature de son œuvre.
C'est un romancier.
Pour moi, c'est un écrivain magnifique.
Mais j'ai pas dit le contraire. Moi, personnellement, j'apprécie pas.
Vous reconnaissez qu'il a tendance à taper sur les intellectuels en France.
Être un écrivain, c'est pas être un intellectuel.
Oui, mais non, mais ça dépend qui sont les intellectuels. Je veux dire, il tape aussi sur certains imposteurs. Il y a des tas de gens qui sont. Oui, il tape sur certaines lâchetés,
pour terminer juste là-dessus, Sarah Al-Matari
dénonce certaines vérités, tout simplement.
Excusez-moi, je voudrais juste reprendre Sarah Al-Matari. Vous dites être écrivain, ce n'est pas être intellectuel. Qu'est-ce que c'est alors? C'est être universitaire, tout simplement?
Non, mais moi, je défends pas ma paroisse, hein, vraiment pas, contrairement aux apparences. Mais dire que Welbeck est un intellectuel parce qu'il a exprimé un certain nombre de vérités personnelles. Sur les ondes, d'opinion ou à la télé, ça me semble un petit peu forcé.
C'est pas des opinions. Il a fait de la littérature. Il exprime une pensée.
Est-ce que je peux citer Michel Welbeck?
Allez-y, citez-le, Christian Paul.
Dans un studio de France Inter en 2015, il dit la France existait après la République, avant la République, elle existera après la République. C'est une position d'écrivain, d'intellectuels réactionnaires. Donc, de ce point de vue, le débat et le combat me semblent tout à fait légitimes. Et Welbeck, par certains aspects, sinon la bien-pensance, peut quand même incarner aussi l'imposture.
Bon,
il dénonce la République et il reçoit d'Emmanuel Macron la Légion d'honneur.
Absolument.
Voilà. Moi, je préfère Piketty qui la refuse à Welbeck qui va la chercher.
Ah bah moi, je préfère Welbeck à Piketty, quel que soit le sujet.
L'écrivain Welbeck est passionnant à lire. L'intellectuel ou l'homme d'intervention politique, Welbeck, est pour moi, en termes de conviction, profondément suspect.
Bon, Piketty, c'est suspect grand, de quoi
C'est quand même un mec qui veut stériliser l'Afrique.
C'est un discours anti-républicain.
Il a le droit d'être antidémocrate. Il a le droit d'exprimer son opinion.
Les opinions ne sont pas répréhensibles en soi. Nous n'avons pas à faire la police de la pensée. Nous pouvons simplement dire, quand il y a un propos antidémocratique, anti-républicain, anti-libéral...
Mais quoi, c'est anti-républicain de dire il y avait la France avant, il y aura la France après la République,
parce que c'est un pari sur la fin de la République. Et quand vous lisez Welbeck entre les lignes et parfois même explicitement, on n'est pas très loin de cette pensée-là.
Christian Paul,
c'est la pensée réactionnaire, mais elle date d'un siècle et demi.
Pardonnez-moi, est-ce que vous pensez que l'éclairage médiatique dont bénéficie Michel Welbeck raconte l'état du débat public en France?
Mais d'abord, elle permet de découvrir ou de faire découvrir un très grand écrivain. Et ça n'est pas quelqu'un. Vous avez madame cité Céline tout à l'heure. Il est évident qu'il y a de très grands écrivains qui sont aussi des
Welbeck
penseurs.
Welbeck a pas écrit des pamphlets antisémites aux dernières nouvelles quand même. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison?
Mais je dis simplement qu'on peut être un très grand écrivain et être aussi un penseur réactionnaire. Voilà, je ne parle pas d'antisémitisme.
J'aime bien parce que tout à l'heure on disait que bien-pensant c'était un terme qui servait à disqualifier l'adversaire, mais là on utilise à foison le terme de réactionnaire qui est lui aussi un terme qui sert à disqualifier l'adversaire.
Ah oui, ça c'est pas faux, Sarah Al-Matari.
Welbeck, pour moi, il est très loin au-dessus de toutes ces considérations. C'est le plus grand écrivain de notre époque, c'est un poète immense.
N'est-il pas venu sur votre plateau cette saison?
Mais j'aurais bien aimé qu'il vienne, mais il a eu besoin de faire aucune interview pour vendre 500 000 exemplaires
de sérotonine.
Parce qu'il avait construit son capital symbolique bien avant.
C'est un type absolument majeur, je disais, et l'attaquer sur deux, trois déclarations déclaration qu'il fait.
Mais c'est pas deux, trois déclarations. Relisez ses idées. Relisez ses essais.
Mais
c'est
on parle
écrit.
Du débat des idées, Charles Consigny. Et,
je sais pas.
Et moi, je n'enferme pas Michel Houellebecq dans la littérature. Je lis ses romans et je trouve que c'est un très grand écrivain. C'est pas le seul. Enfin, c'est un très grand écrivain. Pour autant, on peut aussi le combattre sur le terrain des idées. C'est ça le débat.
D'accord, d'accord. Moi, pour répondre à votre question, en tout cas, je pense que son audience en France, je sais pas si elle dit, je pense qu'elle est uniquement le fruit de sa
plume.
De sa capacité à écrire ce que des millions de gens ressentent aujourd'hui, à décrire la solitude contemporaine, à décrire le désarroi des gens qui vivent sans amour, à raconter l'économie aussi, parce qu'en fait, moi par exemple, je ne le suis pas du tout sur le plan économique, il n'est pas du tout libéral. Il y a des pages magnifiques dans Sérotonine sur cet employé du ministère de l'Agriculture qui n'a pas arrêté de faire des rapports, qui selon lui allait toujours dans le bon sens, et finalement il a toujours été broyé par le libre-échangisme, parce qu'il explique qu'il y a des gens qui seraient prêts à mourir pour la liberté du commerce, et il finit en disant « Mais qui étais-je pour penser que je pouvais changer quelque chose à la marge du monde ?» C'est un livre qui est bouleversant, parce que c'est lui qui dit, je trouve, le mieux notre époque. Je ne sais pas s'il est réactionnaire ou pas, mais peut-être d'ailleurs que c'est intéressant de voir que celui qui raconte le mieux le désarroi de notre époque est un réactionnaire.
Alors, ce n'est pas un débat sur Michel Houellebecq aujourd'hui, mais je voudrais revenir Matari sur ce mot réactionnaire. Ce mot disqualifiant réactionnaire.
Ce mot, en fait, qui remonte plus ou moins à la Révolution française, il y a un texte célèbre de Benjamin Constant sur le mot réactionnaire, n'était pas en fait un mot péjoratif. Et ça m'étonne que vous le preniez comme tel.
Ça l'est devenu.
Ça l'est peut-être devenu, mais c'est juste en fait une forme d'action. C'est une forme d'action, une forme d'action à droite, souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça nous renvoie à la thématique de la polémique. La réaction, c'est aussi ça. On réagit. C'est pas forcément quelque chose de
négatif. C'est souvent les réactionnaires qui réagissent, d'ailleurs. C'est vrai, dans le débat public aujourd'hui, ceux qu'on catalogue comme réactionnaires sont souvent ceux qui n'arrivent pas à s'empêcher de réagir. Il y a plein d'intellectuels
à l'extrême gauche, ça réagit beaucoup aussi.
Face aux situations des migrants, face au chômage de longue durée, c'est pas des réactions, c'est de la bien-pensance.
Non, c'est pas ça que je dis, mais par rapport au débat dans son ensemble, je sais pas, par exemple, Alain Finkielkraut, c'est Kundera qui disait de lui, il ne sait pas ne pas réagir. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, à voir avec le terme.
Et le personnel politique dans tout ça, Christian Paul, est-ce que les partis politiques, à votre avis, sont toujours pourvoyeurs d'idées aujourd'hui en France ?
Très peu, et c'est bien le problème. Et ça vaut d'ailleurs pour la droite comme pour la gauche. Et je pense que ce qui est peut-être nouveau...
Comme pour le centre, je crois qu'il existe aujourd'hui, le centre.
Oui, c'est peut-être une parenthèse, mais on ne sait pas combien de temps elle durera.
Le centre, c'est la droite.
Le centre d'aujourd'hui et la droite, et Valéry Giscard d'Estaing l'avait parfaitement décrit il y a 30 ans. Je pense que les partis ne feront plus le programme. Et que c'est la société qui fera le projet. Et que c'est peut-être quelque chose de nouveau dans cette période. D'abord parce que les partis sont dans un très mauvais état. Il y a des discrédits, il y a une sorte de dévitalisation générale des partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les réinventer, mais c'est l'état des lieux. Et probablement aussi parce que le monde est devenu très complexe et qu'aucun parti, à lui tout seul, n'a les femmes, les hommes, les talents, les idées pour faire le programme. Donc je pense que, et c'est une des raisons de notre réunion des prochains jours, je pense que c'est pour beaucoup la société qui fera le programme, mais aussi avec des créateurs, des artistes, des chercheurs, des gens qui expérimentent dans les territoires, dans les entreprises. C'est peut-être là que sont aujourd'hui les innovateurs du quotidien et les vrais apporteurs d'idées.
Alors justement, ce festival des idées à la Charité-sur-Loire à partir de demain dans la Nièvre, l'idée c'est de faire des débats vertueux. À quoi ça ressemble un débat vertueux, Christian Paul ?
Alors, on va d'abord faire des débats inversés. C'est-à-dire que la parole des citoyens sera première. On en a un peu assez de voir des débats où des monologues interminables se déroulent, où on ne se répond pas, ni sur la tribune, ni avec le public. Donc là, on descend la tribune et ce sont les citoyens qui témoignent, qui interpellent, qui questionnent. Et ensuite, il y a des chercheurs, des citoyens engagés, des élus aussi qui répondent. Moi, je crois à ce cercle magique, en quelque sorte, si on veut vraiment produire des idées pour ce pays et pour la suite, où des citoyens, politiques engagés et des experts dialoguent réellement et de façon authentique. Je crois à cette forme-là et nous allons l'expérimenter en temps réel pendant 3 jours.
Allez, on reprend ces échanges dans un instant sur France Inter, juste après Lana Del Rey.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder.
Time, extrait du nouvel album de Lana Del Rey. Les débats ont-ils encore des idées? C'est la question du jour aux allures de Mise en Abîme, avec Sarah Almatari qui publie un essai sur l'anti-intellectualisme en France, avec Charles Consigny, avocat et ancien chroniqueur dont n'est pas couché sur France 2, et avec le fondateur du Festival des idées de la charité sur Loire, Christian Paul.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Et j'aimerais vous lire deux réactions d'auditeurs qui nous sont parvenues, l'une par mail, l'autre sur l'application France Inter. Internet est-il de droite? C'est l'une des questions qui sera posée à votre festival, Christian Paul. C'est typiquement une question de gauche, écrit cet auditeur, clivante, sectaire et réactionnaire. D'ailleurs, ce n'est plus une question qu'on pose, c'est presque une posture qu'on affirme sur une radio, où souvent ceux qui ne sont pas de gauche sont priés d'aller voir ailleurs. Voilà qui vous réjouit, Charles Consigny,
oui, voilà
évidemment.
Voilà un auditeur plein de...
bon sens.
Si on veut,
c'est ça qui est fou.
Si on veut, je suis en minorité.
Oui, mais c'est l'excuse minoritaire. Mais si on veut rester un instant sur cette question-là, qui est pas un objet de polémique, qui est un objet de, je pense, de vraie réflexion.
Il emploie d'ailleurs le mot réactionnaire dont on parlait à l'instant.
Parce que quand Internet apparaît en France, en tout cas dans les années 90, au milieu des années 90 et un peu avant aux États-Unis, c'est une promesse de liberté, de démocratie, d'émancipation. 25 ans plus tard, c'est d'abord une révolution industrielle avec des géants du capitalisme informationnel qui ont changé nos vies. Je dis parfois que Bill Gates a peut-être plus changé ma vie que François Hollande, vous voyez, dans le
ça,
concret.
C'est sûr. Bon.
Ça, c'est une révélation de socialiste.
Et pour autant, aujourd'hui, les GAFA et les grands réseaux numériques sont aussi, ont plutôt gagné une bataille de domination. Voilà pourquoi la question mérite d'être posée. Elle n'est pas, Charles Consigny, elle n'est pas caricaturale. C'est pas une question de gauche. C'est une question que tout le monde devrait se poser.
En revanche,
vous qui êtes attaché aux libertés individuelles.
On va en venir, bien sûr, aux réseaux sociaux. Je lis quand même cette deuxième réaction d'auditeur. Michel qui nous écrit: moi qui vous écoute de Suisse, je peux vous dire que le débat, comme vous le pratiquez en France, reste extrêmement exotique pour qui n'est pas né chez vous. C'est intéressant, ça, comme réflexion.
Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Et pourvu que ça dure.
Typiquement français, le débat d'idées, Sarah Al-Matari.
Alors, je sais pas s'il est typiquement français, parce que moi, je suis toujours un peu, réticente à essentialiser les phénomènes sociaux. Faudra aller voir chez nos voisins. Il faudra encore une fois une enquête
un témoignage détaillé.
Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, notre République s'est fondée sur le débat d'idées, que sans la diffusion d'un certain nombre de pamphlets, de libelles, de caricatures, etc., parfois extrêmement violentes d'ailleurs, la Révolution française ne serait pas ce qu'elle a été. Et donc, oui, il y a quand même ce fond polémique-là.
Alors, vous avez tous entendu cette petite musique cette année, hein, qui consistait à répéter qu'on ne peut plus rien dire à cause des réseaux sociaux. Ruquier et Ardisson sont les premiers à le répéter. Alors, celles et ceux qui regardaient depuis des années ces émissions de télévision sans pouvoir réagir et qui peut-être étaient choqués sont ravis de pouvoir le dire haut et fort sur les réseaux sociaux. C'est peut-être salutaire, ça, finalement. Mais, Charles Consigny.
Moi, oui, je pense que je regarde beaucoup Twitter. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a souvent des exagérations sur Twitter. Il peut y avoir des injures. Moi, je suis régulièrement, copieusement injurié, menacé, etc. J'en fais pas tout un foin. Je porte pas plainte. Je m'en fiche un peu. Et je pense que il y a chez la majorité actuelle une volonté maintenant de refermer cet espace de libre parole que sont les réseaux sociaux, avec cette loi qui est portée en ce moment par Madame Avia. Et là, je parle
contre la haine sur les réseaux sociaux.
Oui, mais lutter contre la haine, c'est toujours le prétexte pour réduire
Laetitia
la liberté.
Laetitia Avia, je précise, députée En Marche.
Donc Laetitia Avia, députée En Marche, porte en ce moment une réforme qui consiste à obliger les plateformes type Twitter, Facebook, etc., à retirer dans les 24 heures un contenu qui serait signalé comme offensant,
raciste, sexiste,
homophobe, islamophobe, etc. Qu'est-ce qui va se passer si demain on publiait pour la première fois les caricatures de Mahomet, de Charlie Hebdo? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui se précipiteraient pour les signaler? Est-ce qu'elles ne seraient pas retirées dans les 24 heures par Twitter? D'autant que les sanctions prévues par le texte, ça c'est toujours le progressisme actuel qui en fait est derrière ses sourires et sa bienveillance extrêmement brutale, puisque les sanctions sont énormes, sanctions financières énormes qui peuvent aller, je ne sais plus jusqu'à quel 3 ou 4% du chiffre d'affaires annuel, etc. Donc vous imaginez à l'échelle de Twitter ce que ça représente. Donc là, il y a une espèce de volonté autoritaire, de museler la parole des citoyens, alors qu'elle s'exprimait librement sur ces plateformes.
Et la presse,
comme elle s'auto muselle d'une certaine manière, à la limite, ça va peut-être pas changer grand-chose.
Abonnez-vous
à Mediapart.
Là, je vous taquine, je suis abonné. Enfin, j'ai des codes d'accès. Je suis pas abonné, mais
c'est du piratage.
Je n'aurais pas dû dire ça.
Je
n'ai pas dit ce que j'ai dit.
Payez vos codes, Charles Consigny. Mais
je serais ravi de les payer.
On va vous abonner.
J'aime beaucoup Mediapart. Je trouve que Mediapart joue un rôle tout à fait utile à la société, à la démocratie. Mais voilà, une loi qui, typiquement, à mon avis, est à dénoncer sur le plan de la liberté.
Toujours à propos des réseaux sociaux, on a entendu récemment le témoignage de Tristan Harris, qui est un ancien ingénieur de chez Google. Il a été auditionné récemment, par le Sénat américain, et il a parlé de l'indignation en ligne comme moteur des réseaux sociaux. Les propos teintés d'émotion ont tendance à être plus viraux, hein, et pour chaque mot d'indignation ajouté à un tweet, le taux de retweet augmente de 17%. C'est très précis, hein, c'est documenté. Il explique que le modèle économique des réseaux sociaux repose sur la polarisation de nos sociétés. Est-ce qu'elle est avérée, Sarah Al-Matari, cette polarisation, et est-ce qu'elle est récente ? Et je pense qu'elle est avérée. Vous dites quelque chose d'intéressant, en fait, sur la passion, en fait, sur la place des passions dans notre société.
Et de l'émotion.
Et de l'émotion en politique, ça revient. Et il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent, en fait, sur ces phénomènes-là. Ça me semble important de les prendre en compte. Et je crois à cette indignation et je crois à son caractère salutaire. Et les réseaux sociaux, en fait, sont un espace où, jusqu'à quand, je ne sais pas, on peut encore exprimer cette indignation.
Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle pour vous, le règne de l'hégémonie de l'indignation sur les réseaux sociaux.
Hégémonie, comme vous y allez. Non, je pense qu'il faut continuer à s'indigner et que, effectivement, ça peut apporter beaucoup.
Christian Paul.
Ouais, je pense qu'il faut vraiment cesser de diaboliser Internet et les réseaux sociaux, justement parce que ce sont des espaces où la promesse initiale se déroule quand même très largement. Même si, je disais tout à l'heure qu'il y a des phénomènes contraires et des phénomènes d'emprise économique qui sont considérables. Mais les réseaux sociaux, ça reste un endroit où on peut s'informer, où on peut s'exprimer, qui donne à chacun une capacité éditoriale plus ou moins grande. En revanche, c'est vrai, il y a des grandes polarisations. Dominique Cardon, qui est un sociologue de l'Internet, rendait compte récemment d'études aux États-Unis qui montrent qu'il y a eu, notamment autour de Donald Trump, des polarisations nouvelles dans l'espace public américain. Et ça se voit très bien quand on fait une sorte de carte de l'Internet. Donc, Internet n'est pas... les réseaux sociaux, évidemment, ne sont pas sans conséquences sur nos sociétés, mais ça reste quand même... un bien commun à défendre. Et là, je rejoins ce que disait Charles Consigny tout à l'heure. Je pense qu'il y a une tentation très forte aujourd'hui de vassaliser le monde numérique. D'ailleurs, et la presse n'est pas à l'abri. On a vu quand même une idée que Emmanuel Macron lui-même jugeait pétainiste, qui a été réunie récemment par un membre du gouvernement. Il faudrait créer un conseil national de l'ordre des journalistes. Bon, on voit bien là que derrière, en effet, ce libéralisme de façade, il y a une régression très profonde.
Je pense et une volonté de museler la presse.
En tout cas, il y a une absence de culture démocratique. Voilà, c'est peut-être ce qui est plus grave, et c'est ce qu'il faut. Quand je parlais tout à l'heure de réveiller les consciences, c'est notamment de réveiller la culture démocratique. Vous savez, c'est pas une plaisanterie, et c'est peut-être un des éléments du débat d'idées. Vous rentrez aujourd'hui dans une librairie, vous avez une dizaine de livres sur les tables qui parlent de la fin de la démocratie ou de la crise de la démocratie. Et donc aujourd'hui, s'il faut réveiller le débat des idées, c'est parce qu'il y a deux choses qui guettent la démocratie, c'est l'indifférence, c'est vrai, mais c'est aussi la violence et peut-être la vassalisation dans certains nombres d'espaces publics.
Alors venons-en, s'il vous plaît, au grand débat national organisé par Emmanuel Macron pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Beaucoup ont parlé d'un grand oral. Était-ce vraiment un débat et était-il
Non, c'est
vrai...
question pour un champion.
Ah,
c'est
question pas... pour un champion, oui, Christian Paul.
Oui, c'est ça. C'est le parcours d'un très bon élève qui, toute sa vie, envie de passer le concours et qui l'a fait avec un certain courage physique d'ailleurs peut-être, mais ça n'était pas...
Courage physique pour l'endurance, vous voulez dire, les réunions étaient très longues.
Oui, les réunions étaient longues, c'était d'ailleurs éprouvant je pense pour les spectateurs
pour les équipes, mais lui s'était préparé
à la différence des
autres participants.
Et il y a eu également alors ce moment totalement surréaliste où il convoque à l'Élysée 80
intellectuels,
chercheurs, grands noms de l'université, et où il va parler 60 ou 80 fois plus longtemps que n'importe lequel, puisqu'ils avaient 2 minutes, il a répondu à chacun d'entre eux. Et donc, il y a une incapacité à sortir de ce rapport totalement vertical avec les Français.
Sarah Almatari, bien sûr, votre regard là-dessus nous intéresse, puisque vous êtes spécialiste des intellectuels en France. Ce grand débat avec des intellectuels, qu'en avez-vous pensé?
Moi, je suis évidemment très critique. Pour moi, c'est une opération de communication de grande envergure.
Ils ont quand même discuté pendant 8 heures.
C'est pas vraiment une discussion, c'est une... comment dire, ce sont la formulation de questions... auxquelles se sont succédé une série de monologues du président.
Mais les questions étaient posées par les intellectuels.
Oui, mais les questions étaient contrôlées, validées, etc. Donc, il n'y a pas de vrai débat, là. C'est complètement cadenassé. De toute façon, pour qu'il y ait un vrai débat, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup moins de participants et qu'il puisse y avoir échange d'arguments.
Donc, des intellos triés sur le volet, il aurait fallu?
Oui, mais non, pas forcément. De toute façon, moi, je vous donne mon point de vue. Je pense qu'il ne fallait pas y aller parce que c'est un écran de fumée et que c'était une simple démonstration de force de la part d'un président qui est très narcissique.
La sociologue Dominique Méda a parlé d'une impression d'avoir été prise en otage.
Oui.
Elle l'a été.
De servir d'alibi. Je comprends pourquoi elle y est allée, mais j'ai apprécié le texte qu'elle a fait, je crois, dans Libé. Et effectivement, elle s'est sentie trahie.
Charles Consigny, le grand débat national, qu'en avez-vous pensé? Et en particulier celui avec les intellectuels?
Non, d'abord, en effet, la disproportion des temps de parole dit beaucoup sur ce que les uns et les autres pensent d'eux-mêmes.
Il faut avoir, sur le surmoi des uns et des autres.
Voilà, il faut avoir vraiment une très très grosse estime de soi-même pour parler 60 fois plus que 80 intellectuels. Ça laisse songeur. Mais moi, je crois surtout que le gouvernement actuel a été incapable de comprendre ce mouvement des Gilets jaunes, de lui tendre la main, d'écouter ce que ces
gens. Alors, le grand débat, il faut quand même le dire, c'était des contributions en ligne, des cahiers de doléances dans les mairies, des réunions locales, des courriers et courriels qu'on pouvait envoyer sur le site pour nourrir le grand débat. C'était un dispositif très large.
Mais qu'en est-il resté?
Mais attendez, mais c'est quand même dingue.
Ça reste à faire,
ils font comme s'ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Les gens vont sur les ronds-points, ils disent on n'a pas assez d'argent, la petite école du village a fermé, la maternité a fermé, l'hôpital.
Je peux pas faire plein d'essence.
Et trop loin, je peux pas faire plein d'essence. Et on organise quand même une grande consultation pour savoir. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi est-ce que vous êtes sur les ronds-points?
Ça vous semblait sérieusement suffisamment clair, le message qu'envoyaient les Gilets jaunes?
Mais moi, pour moi, c'était extrêmement clair. C'était le message d'un peuple misérable, frappé par la désertification, qui voit son mode de vie s'écrouler, qui est inquiet pour ses enfants et auquel il faut répondre. Je veux dire, par exemple, on a reçu nous des Gilets jaunes dans l'émission. On n'est pas couché.
C'est compliqué d'avoir un porte-parole. Hein,
Ils étaient plusieurs à parler de cette histoire de vaisselle de porcelaine de Sèvres de l'Élysée. L'Élysée a commandé, selon le canard enchaîné, pour 500 000 euros, selon eux pour 50 000 euros. Moi, j'ai une idée sur le prix de la porcelaine, je pense que le canard enchaîné avait plutôt raison, de porcelaine de Sèvres. Et il y a eu de la part des élites une espèce de morgue qui a consisté à tourner en dérision le fait que ces gens étaient choqués par le montant de cette commande. Mais je suis désolé, il faut les comprendre. Avec 500 000 euros, par exemple, combien d'années de salaire d'un instituteur vous payez dans un petit village? Un instituteur qui est à 1 500 euros net mensuel, pendant combien de temps vous le payez? Pendant très longtemps. Donc, est-ce qu'il vaut mieux commander de la porcelaine pour qu'une espèce de cour vive luxueusement, ou est-ce qu'il vaut mieux répartir l'argent public? Je crois que de la part des Gilets jaunes, il y avait une volonté très forte que l'argent public, tout à coup, soit redirigé vers ce qui est essentiel. Et au lieu de ça, on a envoyé des CRS pour leur taper sur la tête, les traiter brutalement, et on a réprimé, là je parle en connaissance de cause, en tant qu'avocat, pour avoir défendu des Gilets jaunes qui ont été brutalisés par la justice, et par la police, mais par la justice ensuite, on a maté cette révolte au lieu de l'écouter. Donc ce grand débat...
Elle n'est pas matée encore.
Je ne sais pas ce qu'il en reste.
Elle a pris son dernier mot.
Non, le grand débat a accouché d'une souris, ça, je pense que c'est totalement... unanime ici, je pense, entre nous, en tout cas. Et ce qui est dramatique, c'est que c'était probablement la plus grande révolte, le plus grand mouvement social en France depuis très longtemps. En tout cas, sous la Ve République, mais 68, mais c'était évidemment d'une nature différente. Ce qui est dramatique, c'est que, en fait, on a en quelque sorte enterré ces revendications, on les a diluées dans un grand débat. Alors, il était grand par la taille, mais sur le fond, c'était un simulacre, parce que on ne peut pas construire la délibération collective de cette façon-là, d'une façon aussi verticale, aussi unilatérale. Vous voyez, le président arrive, il débat, il remonte dans sa voiture, il s'en va, il en reste un discours de politique générale du Premier ministre.
C'est la mise en scène.
Dont
presque la scénographie que vous contestez.
On est totalement incapable de retenir quelques idées fortes. Donc non, c'est un dispositif d'anesthésie politique.
Sarah El Matari, un dernier mot sur le grand débat?
Un dernier mot sur le grand débat, évidemment très décevant. Moi, je partage l'opinion de mes deux amis co-invités. Il n'en est pas resté grand-chose, à part une conférence de presse finalement assez vide d'idées.
Je voudrais remercier cet auditeur qui nous écrit depuis l'Espagne pour nous parler de la tertulia. La tertulia en Espagne, c'est le fait de débattre sur tout et rien. Et c'est un véritable art de vivre, apparemment, en Espagne. Allez, un peu de blues créole à présent. Rien de tel à midi 52. On écoute Delgrès sur France Inter. Trio formé autour du chanteur Pascal Danaé. L'âne malin sur Inter.
Thank you.
réveille le blues créole. Allez, on approche de la fin de l'émission. Mes invités ont débattu de la place des idées en France. J'ai à présent une dernière question à leur poser.
Le débat de midi sur France Inter.
Question rituelle que je pose à tous mes invités. Sur quel sujet avez-vous changé d'avis? Alors Charles Consigny n'a pas encore trouvé sa réponse. Je laisse réfléchir. On commence avec vous, Christian Paul.
Moi, j'ai changé d'avis sur moi-même.
Tiens donc.
Il y a 2 ans, ou plus précisément, sur la façon d'être utile à mes idées et à mon pays.
Renoncé à être député, peut-être.
Je n'ai pas été réélu.
Oui, pardon, bien sûr.
J'ai pensé pendant 20 ans qu'une des façons peut-être les plus utiles d'être pour son pays, pour ses idées, c'était d'être à la tribune du Parlement. Et maintenant, j'expérimente d'autres façons de le faire avec des étudiants, parce que j'enseigne, dans la Nièvre ou on continue à faire beaucoup d'innovation sociale. Et puis avec le Festival des idées, qui est aussi, je l'espère, une façon de défendre des causes justes.
Sarah Almatari, même question.
Quand j'ai commencé à travailler sur le livre pour lequel vous m'avez invité, La haine des clercs, je pensais que l'anti-intellectualisme, c'était un réflexe de droite, voire d'extrême droite. Et puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça avait alimenté tout le mouvement ouvrier depuis le 19e siècle. Et ça avait permis notamment des projets d'éducation alternative, sous la forme des universités populaires, des bourses du travail par exemple. Et ça m'a donné envie de m'engager moi-même dans l'éducation populaire.
Donc ça inonde tout le spectre politique en tout cas.
Oui.
Et vous êtes engagée aujourd'hui dans l'éducation populaire?
J'essaie modestement, en dehors en fait de mes activités d'enseignante. Voilà, je fais quelques petites vidéos d'éducation populaire.
Très bien.
Venez au Festival des idées, j'ai invité Charles Consigny.
Décidément, il invite tout le monde.
Je pense que vous y avez votre place.
Même question pour vous, Charles Consigny.
Mais je ne sais pas trop quoi vous dire.
Il ne change jamais d'avis.
Si, j'ai sans doute changé d'avis sur plein de choses.
On a le droit.
Je peux vous répondre. Disons par exemple, ce sera différent, plus personnel. J'ai changé d'avis sur la fête.
Ah, avant, j'ai très peur.
Ouais, vous allez voir. Avant,
c'est sinistre.
Avant, j'étais quelqu'un d'extrêmement fêtard. Et là, prenant de l'âge, je mesure désormais à quel point la fête ne sert à rien, m'ennuie et me fatigue. Et donc, j'adresse un message aux auditeurs de France Inter, car je sais que c'est une radio de gens qui aiment s'amuser. Ne vous amusez pas. Concentrez-vous. Allez au Festival des idées à la Charité sur
Loire, dans
sur
la Nièvre.
Loire.
Merci beaucoup, Charles Consigny.
Au centre de la France.
Pour ce message rabat-joie de fin d'émission. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle le titre de votre livre, Sarah Almatari, La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France. C'est publié au Seuil. Bon anniversaire à vous, au passage,
merci,
je crois.
Merci.
Le Festival de la Charité sur Loire démarre demain. Et Charles Consigny, vous êtes désormais avocat. On vous verra à la télé à la rentrée?
Absolument. On me verra à la télé en tant qu'avocat.
Très bien. Merci beaucoup et bonne journée à tous les trois.